On m'a dit de parler plus fort.
Ça doit être ça. Tov, bah, ça va le faire, non?
Je pense que c'est bon.
Eh bien, les amis, Miche, Nahan, Chodesh Tov, Mvorach, Miche Nichnasadar, Marbim, Besimcha. Voilà. Donc, normalement, on aurait dû commencer par une chanson, tout ça. Miche, Reb Shlomo, Machou. Mais on est des intellectuels. T'as vu?
Ça sent bien là.
Ça sent parfait.
Voilà.
Bon. Donc, alors les amis, justement,
il faut innover. Ben
c'était parfait. Bana Forou, c'est magnifique. C'est magnifique. Et bien justement, pour faire en sorte que Vena Forou ne soit pas seulement un mot, mais qu'on le vive, eh bien aujourd'hui, nous allons faire un cours très méchamé. D'accord ? Extrêmement ennuyeux. Le but de ce soir est voilà, de faire un cours ennuyeux, comme on a l'habitude.
Il va y avoir une polémique, là, je sens.
Non, pas du tout. Même pas. Enfin, peut-être à la fin, pour voir. Mais là, j'aimerais, on est à 2 semaines de Pourim. Donc on a dit ce soir, on dévie de notre étude habituelle. Et on va parler de Pourim, on va parler surtout de du Pourim qui n'est pas marqué dans la Megillah. C'est-à-dire, donc on va essayer, on va des fois un peu parler de la Megillah, mais surtout, on va essayer de comprendre d'où ça vient, qu'est-ce qui se passe. Et en fait, mon point de départ de notre étude de ce soir, c'est une phrase qui, je vais le dire de manière la plus sèche possible. Moi, j'ai un problème, j'y crois au Tanakh. Alors c'est peut-être une erreur, peut-être que je suis vieux jeu, mais moi, j'ai envie de me fier à ce que nos sages disent dans le Talmud, dans le traité de Megillah, à la page 14, que Nevoa chez Utzrecha le Dorot Nirteva, mais chez Utzrecha le Dorot le Nirteva. Une prophétie qui sert les générations, elle est marquée dans le Tanakh. Donc ce qui est marqué dans le Tanakh, pour moi, c'est Emet. Et c'est justement parce que c'est Emet que j'ai envie de lui donner véritablement Kovet Rosh, de tout son sérieux, et de ne pas prendre l'histoire de Pourim comme l'histoire des enfants qu'on raconte au Gan, voire slash à l'école, voire slash à la yeshiva, slash à la ulpena, slash dans les familles et les divrei Torah autour de la table de Pourim. C'est-à-dire, j'ai envie de parler d'un Pourim vrai, concret, parce que pour moi, les événements de Pourim se sont vraiment passés.
Oui. C'est d'une tristesse épouvantable, là, pour eux. Ils sont restés là-bas.
Attends, là, t'es déjà dans la fin de la Megillah. Moi, je suis bien avant la Megillah. Et donc, les amis, je vous propose qu'on commence tout de suite dans le vif du sujet en vous disant, yala, c'est parti, remettons les choses dans leur contexte. Les amis, ça commence où, l'histoire de Pourim? Alors là, vous pouvez pas du tout le voir parce que j'ai sur mon ordinateur. Donc, je vais montrer ici à la caméra, Iné, vous l'avez vu, c'est très beau. En fait, l'histoire commence là. Toi, tu peux voir parce que tu es à côté de moi. L'histoire, elle commence là. OK ? En fait, notre histoire commence à Anshan. OK ? La ville d'Anshan, bien connue évidemment de nos contrées. La ville d'Anshan est située dans le Golfe, en Asie mineure, la ville d'Anshan. Et tout commence en -650. Yahasra. -650, on est encore à l'époque du Bayit Rishon, du premier Beit Hamikdash à Jérusalem. Eh bien, là-bas, il y a un monsieur qui va se lever et qui va créer le premier royaume de Anshan. Il s'appelle Achmanish. Beau gosse. Très, très beau gosse, Achmanish. Achmanish règne en -650 à Anshan. Ah, c'est intéressant. Sauf que, bon, tu vas me dire, ok, mais ça ne m'intéresse pas. T'as raison. Mais par contre, son fils règne après lui. Et là, ça devient plus intéressant. Puisque son fils règne en -600, ok, et il s'appelle Koresh Harishon. Non, fais pas ça. Je t'ai vu lever les yeux vers le ciel comme si ça t'évoquait quelque chose. C'est pas lui. Ok ? Toi, celui à qui tu penses, c'est Koresh Hasheni. Hein? Là, on parle de Koresh Arishon, Cyrus 1.
Ah, c'est lui qui a donné le toit.
Du tout.
C'est celui
c'est celui que tu connais pas.
Non, c'est peut-être à lui qu'on fait, allusion, que fait allusion le prophète. Quand
non,
il
non,
dit, vous allez avoir un Koresh,
non, je vous dis, personne ne le connaît celui-là. Non, vraiment.
Mais c'était le Rishon.
C'était le Rishon, fallait bien qu'il y en ait un qui soit Rishon. C'était le Rishon, personne ne le connaît, il n'est pas du tout intéressant. Par contre, il règne à Anshan. D'accord, donc toi sur la carte, tu as vu qu'Anshan c'était là. Il y a un truc qui est loin, mais pas trop loin. Il y a une autre ville, je ne sais pas si tu la vois ici. Regarde, elle s'appelle
Kish.
Non, à côté de Kish.
Nippur. Babou.
Babylone. Babylone. Donc il y a une ville à côté qui s'appelle Babylone. Enfin, à côté. C'est pas vraiment à côté, il y a à peu près 1000 km entre les deux, mais. Babylone. Ah tiens, ça commence à m'intéresser cette histoire. Pourquoi ? Parce qu'au moment où Koresh 1 règne à Anshan, il y a un autre monsieur qui règne à Babylone, il s'appelle Nebuchadnezzar, Nabucodonosor. Et oui, car Nabucodonosor va arriver pour la première fois à Jérusalem en moins 597, 3 ans après l'arrivée de Koresh 1 au pouvoir à Anshan. En moins 597, Nebuchadnezzar arrive pour la première fois à Jérusalem. Et là, je dis, hop, passe, stop, 2 secondes, je m'arrête. Je prends ma Megillah. Parce que je rappelle que moi, mon postulat de départ, c'est que j'y crois à ce qui est marqué dans la Megillah. Et donc, j'ouvre ma Megillah Esther. Et dans ma Megillah Esther, au chapitre 2, verset 5, eh bien, c'est le verset préféré des Ashkenazim. Puisque c'est le verset où on va lire avec les Ta'amim de Tisha B'Av. Donc, c'est le verset préféré des Ashkenazim. Nahan. Et là, on nous dit, Ish Yehudi, Aya Beshushan Abira, Ushmo, Mordechai, Ben Yair, Ben Shimi, Ben Kish, Ish Yemini. Donc, il vient de la tribu de Binyamin. Et là, on te dit, Asher Ogla Mirushalayim, Imagola, tu vois, tu pleures déjà, Imagola, Asher Ogleta, Im Yechonia, Melech Yehuda. Oh, Imagola, Asher Ogleta, Im Yechonia, Melech Yehuda, c'est en moins 597. C'est à ce moment-là que Nabucodonosor va emmener en exil l'élite de Jérusalem et seulement 11 ans plus tard, il reviendra et il détruira Jérusalem et le Beth Amikdash numéro 1. Mais c'est-à-dire, donc tout ça, ça se passe. Ça se passe. D'ailleurs, entre parenthèses, il y a fort à penser que historiquement, c'est pas Mordechai, Asher Ogla Mirushalayim. Ish Yehudi Aya Beshushan Abira. Il s'appelle Mordechai, qui est le fils de Yaïr, qui lui-même est le fils de Shimi, qui est le fils de Kish.
Qui a été
Asher Ogla, Mirushalayim. Sinon, ça ne marche pas au niveau de la chronologie. Il ne peut pas avoir, je sais pas, 200 ans au moment où on arrive. Mais enfin, bon, l'Ochashu. Ok. Donc, on a compris. Koresh 1, Chachnish, Anshan. Cool. Mais quel rapport avec notre histoire? Eh bien, c'est ça l'histoire. C'est que notre ami Koresh numéro 1 va régner à peine 10 ans et sera remplacé par son fils, le bien connu Kanbouzi Ier. Quoi ? Bien sûr ! J'ai préféré le 2, le 2 était mieux. Bon, d'accord. Kanbouzi Ier, l'obachou. Seulement Kanbouzi Ier, il a un fils qui régnera 9 ans après lui, donc en moins 500. C'est vrai que je vous raconte 9 ans après lui. Beaucoup plus tard après lui, parce que lui, il règne en moins 590, mais il va régner longtemps, il ne va pas faire grand-chose de sa life, il va rester à Anshan, mais son fils prend la suite en moins 559. Et il s'appelle Koresh Hacheni, ou alors appelé Koresh le Grand, Cyrus le Grand. C'est lui. Beau gosse. Cyrus le Grand, et lui par contre, ouah, lui je le connais bien. Parce que lui, tu peux mettre les yeux vers le ciel. Lui, oui, tu peux dire, ah, c'est qui ce Cyrus numéro 2, Koresh Hacheni? C'est lui qui va conquérir Babylone. Donc c'est le premier qui sort de Anshan. Et non seulement il conquiert Babylone, mais ça lui suffit pas, il va créer l'Empire Perse. Ça n'existe pas avant. Avant, il y a Anshan. Il y a deux autres cités vite fait. Mais Koresh Hasheni, c'est lui qui, en conquérant Babylone, eh bien, il va réussir à créer l'empire perse. Ah ah, ça, ça m'intéresse. Et une fois qu'il a battu Nabucodonosor et Belshazzar après lui, eh bien, en moins 538, il a, ça y est, il a assis sa domination et il va faire sa déclaration Koresh. Hatzarat Koresh, elle est là. Non, parce que c'est pas une blague. Moi, je vous raconte deux trucs, c'est du concret. Hatzarat Koresh, c'est marqué dans Sefer Ezra. C'est marqué dans Divrei Hayamim, c'est marqué dans le Tanakh. Nevoah Sheutzrecha LeDorot. Ouais, mais tu crois quoi que Bedorot, on a retrouvé archéologiquement la Hatzarat Koresh. On l'a retrouvé. Le texte, c'est sur un morceau de terre, enfin de pierre comme ça, gravé. C'est un cylindre gravé. Vous pouvez le voir ici. Il est au musée Rockefeller. C'est la Hatzarat Koresh, la vraie, l'officielle. On l'a. Et dans cette Hatzara, eh bien, il va dire quoi? Alors, dans le Tanakh, c'est un petit peu juifocentré, puisque dans le Tanakh, on nous dit qu'il a donné la permission aux juifs de revenir à Jérusalem et construire le Beth Amikdash. C'est vrai, mais pas que aux juifs. C'est-à-dire qu'il donne la permission à tous les peuples conquis par Babylone de rentrer chez eux et de reconstruire leur temple. Donc nous aussi, mais pas que nous. Il y a fait. On est en moins 538, Nahon.
Tout se précipitait.
Ça fait quoi? Ça fait 50 ans que le Beth Amikdash numéro 1 a été détruit en moins 586.
Et une interro sur les dates.
T'as vu? Mais attendez deux secondes. Où sont les juifs? Le roi a permis aux juifs de rentrer. Bien sûr que tout le monde va venir. Il y en avait un qui avait chanté « Où sont les femmes ?» Enfin, je chante « Où sont les juifs ?»« Où sont les juifs ?» « Im Zerubavel ben Shaltiel » Vous connaissez Zerubavel, hein? Celui de la chanson. Zerubavel, Zerubavel. Ken, c'est lui. Zerubavel, descendant direct de David Ameler. Mashiach. C'est lui qui va revenir. Il va devenir le roi. Il va ramener tout le monde. En plus, c'est pas. Même les religieux, ils sont d'accord, puisqu'il y a un prophète, Haggai Hanavi, qui dit qu'il faut rentrer. Ils sont pas rentrés, les juifs. Tov, tov, beseder. Nous. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe qu'en moins 530, ça y est, enfin, Kanbouzi II monte sur le trône. Tu vois, il n'était plus connu. Bon, il ne sert pas à grand-chose. Non, parce que vraiment, non, il ne sert à rien. Il va même finalement se suicider parce qu'il trouve que la vie dans son palais, c'est trop compliqué. Donc vraiment, ce n'est pas quelqu'un qui va laisser une grande marque dans le monde. Mais par contre, il a un fils. Et son fils va monter sur le trône en moins 521. Et là, ça commence à devenir du serious business. Puisque son fils s'appelle Dariavesh Arishon, Darius Ier. Ton visage est expressif, comme si tu savais de qui on parlait.
Darius Ier, de lui on parle.
Ah, de lui, évidemment. La barbe. Ils avaient tous la barbe.
Il avait des
pailles. Il avait tous des pailles. Il avait tous la barbe. Darius Ier, Dariavesh Arishon. Et là, ça chauffe. Ouais. Ça chauffe sérieusement. Alors, pendant les 20 premières années de son règne, ça va. Il est pépère. Il remet en place la grandeur de son empire. Parce que c'est avec son père, bon, Kanbouzi II, tu sais, c'était pas la folie. Et puis arrive l'année moins 491. Il est toujours au pouvoir. Ça fait 30 ans qu'il règne. Et là, il se dit. Il y en a quand même qui sont en train de me saouler à l'ouest. Tout commence par un litige commercial, comme d'habitude. Mais très vite, ça prend des proportions énormes. Et il a énormément de problèmes avec des cités-états qui ne sont pas du tout comme eux, qui n'ont pas les mêmes divinités et qui ont une nouvelle idéologie complètement absurde de démocratie. C'est saoulant, cette histoire. Et donc, en moins 491... Dariavesh Arishon sort en guerre et il va commencer ce qu'on appelle les premières guerres médiques sans R. Je t'ai vu venir. Les premières guerres médiques. Nous sommes en moins 491 et c'est un combat qui oppose l'empire perse aux cités-états de Grèce. Mais c'est une guerre mondiale, les amis.
Et pourquoi c'est lui qui la déclenche?
Pourquoi c'est lui? Parce qu'ils ne veulent pas payer les impôts. sur les routes commerciales. C'est dit, tout commence par un litige commercial, classique. Donc il lance la guerre contre les cités-états grecques. Et c'est une guerre terrible. Elle va durer 2 ans. Une guerre, des milliers de morts, laisse tomber ce que tu veux. Et finalement, les Grecs sont en train de perdre. Ils sont en train de perdre et l'armée perse les a acculés sur une plage. C'est le dernier combat. Tout se joue là. Et les Grecs perdent. À ce moment-là, l'armée grecque ne sait plus quoi faire. Donc ils vont envoyer un émissaire. On n'a plus qu'une seule solution. Il faut absolument les renforts d'Athènes. Les Athéniens ne sont pas là. On a besoin d'eux. Il faut que tu ailles prévenir Athènes que c'est mort, on est en train de perdre. Et donc, nous avons un homme qu'on ne connaît pas, qui prend ses petites sandales, sa petite jupette grecque, et qui va courir 42,2 km depuis la plage de Marathon. 1, tu dis ? Il faudra vérifier. Depuis la plage de Marathon jusqu'à Athènes. Ah, tu vois tout de suite ? 42,2 km depuis la plage de Marathon jusqu'à la ville de Athènes. Il court de toutes ses forces. Et lorsqu'il arrive, il est épuisé. Il vient de courir un marathon. Il est épuisé et il aura à peine le temps de donner l'information au général grec qui s'appelle Démistocle. Et il meurt de la suite de son épuisement. Mais Démistocle rassemble son armée et il marche sur Marathon. Et quand il arrive, eh bien, tout d'un coup, la tournure de la guerre change. Et Démistocle prend son arc, sort une flèche, l'encoche. Il a la vision directe sur le roi qui ne s'est pas protégé, pensant qu'il est hors de toute atteinte. Et Démistocle tire une flèche qui va atteindre directement Darius en plein ventre. Et Darius, le roi, s'effondre. Il mourra 3 jours plus tard. Et les Grecs ont gagné la guerre. Les premières guerres médiques sont une victoire grecque. Et à ce moment-là du cours, tu te dis, c'était Pourim normalement. On devait parler de Pourim. Mais le problème, c'est que voilà, maintenant que Démistocle a tué Dariavesh Arishon, eh bien, le fils de Dariavesh rentre vaincu et ne rêve que d'une seule chose. La vengeance, la revanche, chacun l'appellera comme il veut. Bon, on rentre dans notre histoire à nous. Qu'est-ce que vous en pensez ? Beseder. Le fils de Dariavesh s'appelle Khashyarch Ier. Vous connaissez ? Bien connu de nos contrées. C'est ça, c'est toujours le numéro 2. Khashyarch Ier. Bon, les amis, on a un problème. Toute l'histoire historique de ce qui s'est passé à l'époque perse, on n'a aucun écrit perse. Les Perses n'écrivaient pas. Donc à part la déclaration Koresh qu'on a eu de la chance de folie de l'avoir, ils n'écrivent pas. Ou alors s'ils les ont écrits, ils ont tellement bien caché qu'on ne les a pas retrouvés. Donc les seules infos qu'on a sur la période perse, c'est d'un grec, de Hérodote. Le père de tous les historiens, Hérodote, c'est lui qui écrit. C'est la même époque. Bon, mais sauf qu'il a un problème. Bon, d'abord, il n'est pas objectif du tout parce qu'il est grec et donc il déteste les Perses. C'est la première chose. Donc, sa vision des choses, elle est complètement biaisée. Mais c'est pas ça le premier problème. Le deuxième problème, c'est qu'il ne prononce pas le Perse. Il ne sait pas parler Perse. Et donc, tous les noms, il les écorche. La méhadrine. Et donc, bah, Khashyarch, il ne sait pas le dire. Khashyarch, ça fait pas en grec, on n'arrive pas à le dire. Donc, notre Hérodote, par exemple, il y a un autre truc qu'il n'arrive pas à dire. Parce que l'Empire perse, c'est un très grand empire. C'est le plus grand empire de l'époque. Il est plus grand que ce qu'était l'Empire babylonien d'avant lui. Donc, vous comprenez bien que pour gouverner un empire comme celui-là, tu peux pas te satisfaire d'un seul empereur dans la ville centrale. Tu as besoin de gouverneurs grecs. Comment ça s'appelle un gouverneur grec, ce sera perse. Comment ça s'appelle ? Comment ça s'appelle ? Vous savez pas comment ça s'appelle ? Je vais vous dire. Un calife, on n'y est pas là. Non, ça se dit, je le lis. Khashdapana. Khashdapana. Seulement lui, Hérodote, il ne sait pas dire Khashdapana. Alors il va traduire en grec, on va gréquiser ça. Khashdapana. Ça s'attrape. Satrapes, Rajdapana, ça ressemble, Ercheou. Des satrapes, ça sera les gouverneurs régionaux. Ah, mais donc Khashash non plus, il ne sait pas le dire. Donc il va l'appeler Xerxes. Ça fait mieux. Xerxes. Sauf que nous, on n'est pas en reste non plus. Nous, en hébreu, les noms perses, on va tout simplement mettre un aleph devant. Et donc le Khashdapana va donner naissance au plus long mot du Tanakh. Dans le chapitre 9, verset 3 de la Megillah. Ouais, voilà, exactement. Khashdarpanim, les gouverneurs. Bon, d'accord, donc Khashyarch, c'est Xerxes pour les Grecs. Mais nous, on a dit, on met un Aleph devant. Khashyarch, Khashrashverosh. Khashverosh. Ah ! Je le connais, celui-là.
Ah ouais.
Le premier ou le deuxième ?
Le premier. Non, t'en auras d'autres, des Khashverosh. Non, il y en aura quatre. Mais là, en l'occurrence, c'est le premier qui nous intéresse. Il y en aura quatre, c'est le premier qui nous intéresse. Iné, Khashverosh, Khashyarch, Xerxes. Oh, stop! Je reprends ma Megillah. Vayei, bimeh, Khashverosh, stop. Ah, donc il a existé. Très bien. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Rav Google. Ou Wikipédia, ça marche aussi. C'est qui? Khashverosh, Xerxes. Eh bien, la définition. Xerxes premier. Kharchiach en perse, né vers -519, mort en -465, grand roi perse, membre de la dynastie des Achéménides, comme on a dit, et il a régné de -486 à -465, et il est appelé Xerxès le Grand. Vayehi bimei Achashverosh, ou Achashverosh, Hamolech, Meodu ve'atkush, Sheva, Esrim umea Medina. C'est grand. Ah, il a fait. Donc Achashverosh, c'est le patron. Nachon, c'est vraiment un grand roi. Et vous vous rappelez qu'on a dit que Achashverosh, depuis le tout début, il pense qu'à une seule chose. Se venger. La revanche contre les Grecs, ça passe pas la défaite de Marathon. Donc qu'est-ce qu'on fait? Eh bien alors on y va. Vous vous rappelez de notre Megillat Esther? Alors allons-y. On va faire un peu de Megillatitude. ועשרים ומאה מדינה בימים ההם כשבט המלך אחשוורוש על כיסא מלכותו אשר בשושן הבירה בשנת שלוש למולכו. Donc on est en -483. Il a régné en -486. Bishnat shalosh lemolcho. Pourquoi je vous embête sur des dates? Parce que je pense que ça s'est vraiment passé. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé en -483? Ben, la Megillah, elle me dit, Bishnat shalosh lemolcho, asa mishte lechol sarav ve'avadav. Comment stop? Vous voyez comment les mishtaot d'Achashverosh?
Il y avait du vin, il y a une qui date et non est. Attends, tu connais l'histoire? Il dit, bourré, fais venir sa femme.
Choum d'abord, c'est pas ce michté là. Là, le michté, il est pour qui? Cheil paras umadai, cheil paras umadai. Apartemim v'sarah medinot lefanav, be'aroto et osher kevod malchuto, v'etikar tifer gedulato yamim rabim. Combien? 80 ou 100 yom. 180 jours de michté, 6 mois. Bah, tu comprends ce qui est en train de se passer? Il fait pas du tout des michtaot, il y avait peut-être un petit Bordeaux à la fin du repas, tu vois, vite fait. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il rassemble ses armées, il rassemble une coalition, Khail Parasumadai, pendant 6 mois avant, je me rappelle, avant que George W. Bush, il envoie tout le monde en Irak. Ça faisait 6 mois qu'ils en parlaient. Il connaissait mieux le 2. À chaque fois, il connaît mieux le 2.
Pas mal. Voilà.
You got
the point.
D'accord.
C'est fort, la manette.
C'est
pas mal.
Mais c'est vrai. Pendant 6 mois, ils en ont parlé à CNN et Fox News et BFM. Je ne sais pas s'il y avait déjà BFM à l'époque. Enfin, bon, l'homme chané, ils en ont parlé tout le temps. La coalition de l'OTAN, machin, qui va aller... Shmonim ou Meatium. Michté, pourquoi? Le but de Xerxes, l'aroto et osher que vod malchuto, et yikar tiferet gidulato. Regardez, c'est moi le meilleur. C'est moi le plus grand. Hein, on va faire un truc de folie. Venez, sous ma bannière. Voilà ce qui se passe. Mais pourquoi faire? Parce qu'on a dit, il a qu'un seul truc en tête. La revanche. En moins 483, il lance les deuxièmes guerres médiques. Toujours sans le R. Ok? Les deuxièmes guerres médiques. Alors là, attention, c'est une autre salade. Ah, c'est pas la même limonade, parce que celle-là s'appelle, pour les historiens, Em Kol HaMilchamot. La mère de toutes les guerres. Une guerre qui va durer 4 ans. 4 ans. Ok. Et contre qui on se bat?
Les Yévanim.
Les Yévanim, les Grecs. D'accord?
Bah oui, puisqu'on veut les réparer.
Bah évidemment. Très bien. Et donc on amène une armée de folie. Mais notre premier grand combat, remarquez que ça fait deux fois que je dis notre. Et ça choque personne.
C'est notre.
Hein?
C'est notre.
C'est notre. Et dans les armées grecques, et dans les armées perses, il y a
des Juifs.
Des Juifs. Le premier grand combat de cette deuxième guerre médique se tient aux Thermopyles, les portes chaudes. Oui, parce qu'ils ont essayé de soudoyer le roi de la cité grecque la plus dangereuse, Léonidas Ier. Il pensait l'avoir à coup de chocolat.
J'allais dire, c'est pas des chocolats. Mais...
C'est ça. Et le problème, et c'est pour ça que Léonidas Ier, il a dit « Nein, moi on me soudoie pas !» Et donc non, ils n'arriveront pas à se faire des alliés de la cité de Sparte. Ah, les Spartiates, c'est autre chose. Ils ont peur des Spartiates. C'est pour ça qu'ils voulaient les soudoyer. Mais il veut pas. Le problème, c'est que il a le refus de son gouvernement, de ses oracles, parce qu'il y a une haute cour de justice à Sparte qui s'appelle les oracles. Et quand le chef élu par le peuple, eh bien, il décide de faire quelque chose, eh bien, les oracles, la haute cour de justice de Sparte, ils disent non, c'est pas parce que toi t'as été élu et que c'est toi le chef que c'est toi qui décides. En fait, c'est nous qui décidons. Je parle d'un truc, rien à voir, hein, toute ressemblance avec un cas actuel serait purement fortuit, involontaire, évidemment. Mais donc, il n'a pas le droit de sortir en guerre. Donc, il va en tioule avec sa garde personnelle, ça il a le droit, et il ne prend avec lui que 300 hommes. Et c'est avec ces 300 Spartiates qu'il va arrêter l'armée perse aux Thermopyles. Oui, parce que les Thermopyles, c'est quoi les portes chaudes? C'est un espèce de canyon où les Grecs sont, enfin les Perses vont être obligés de passer par là s'ils veulent rentrer dans les terres. Et donc ils savent qu'ils ne sont pas nombreux, 300, pas grand chose, mais ils savent que c'est un endroit où, géographiquement, stratégiquement, ils pourront pas passer avec toute leur armée, et donc là, leur avantage de supériorité numérique, il n'est plus là. Très bien. Et donc, on se bat. Génial. Les Grecs, ils vont faire des trucs de folie. T'as qu'à voir le film 300. C'est exactement ça.
Le premier.
Le premier. Ah, je croyais que tu connaissais mieux les deux. 300, le premier. Et au final, des milliers de Grecs meurent. Mais pas maintenant, après. Là, il n'y en a que 300. Ils vont tous mourir. Les 300 vont mourir. Mais en face, c'est des milliers de soldats perses qui vont mourir. On s'en fout. Parce qu'au final, on gagne. Oui, les armées perses vont battre Léonidas et vont gagner le combat des Thermopyles. Rav Google. Eh, dis-moi, c'était quoi le combat des Thermopyles? Bah, c'était le premier combat des deuxièmes guerres médiques. Sympa, merci Rav Google. Dis-moi, qui était le général des armées perses dans le combat des Thermopyles? Pas de problème. Il s'appelle Mardinos. Ah tiens, Mardinos, chef des armées perses. Gemara dans Maseret Megillah, la page 10, va nous dire que Mordechai Sarg Yasot shel Tzva Achashverosh Ava. Il était général en chef des armées d'Achashverosh. Mardinos, enfin c'est en grec, ils ne savent pas dire les noms. Mardouch, Mordechai, c'est qui le général en chef qui bat Léonidas Ier? C'est Mordechai, le nôtre. Un juif qui est aussi un général et qui est aussi un rabbin. Mais quoi, on a déjà vu ça? Vous en connaissez d'autres comme ça? Dans l'histoire juive. David Alamère n'était pas général, il était roi.
Oui,
mais il y avait des généraux. Est-ce qu'ils étaient aussi rabbins, les généraux? Par exemple, Yoav Ben Tsruya n'est pas connu pour être rabbin. Moshe, il était roi. Pardon, tu peux me dire Yoshua Bin Nun, tu peux me dire Benayahu Ben Yoyada, mais tu peux me dire aussi plus récemment.
Le Rav,
le premier Rav de l'armée. Non, il n'est pas. Le Rav Goren. Le Rav Goren, il n'est pas général de l'armée. C'est pas, il n'est pas non plus général de l'armée.
Il était chef de l'armée.
Et il n'était pas rabbin non plus.
Il est moitié tout.
Tu dis si on fait moitié, plus moitié, machin. De... Shmuel Anagid. Rabbeinu Shmuel Anagid, il y a 1000 ans, un des premiers des Rishonim, également le Ramatkal des armées de Grenade. Ça existe, Mordechai. Tov, tov, tov. Alors les Perses, ils ont gagné le combat des Thermopyles, d'accord, mais c'est le début de la guerre. Parce que finalement, la mort de Léonidas et des Spartiates vont réunir les cités grecques. Et les cités grecques vont partir dans le deuxième film. Pour cette fois... La revanche, et c'est reparti. Et les combats continuent pendant 4 ans. Et finalement, le dernier combat à Salamine. Un combat terrible. Il y a eu d'abord un combat naval terrible qui va être perdu à Salamine. Et le général perse qui perd le combat s'appelle Memouranos. Memouchan, ze Aman, qui lui aussi était Sarg Yasot shel Achashverosh. Vous comprenez que Mordechai et Aman, ça les met tout d'un coup sous un autre jour. Et puis, attendez, je reviens dans ma Megillah. Parce qu'à la fin des 180 jours de Michté, on nous raconte qu'il a fait un Michté où ils étaient tous bourrés, qui a duré 7 jours. Pour qui? Pas pour tous les gens. Pour ses conseillers de Shushan Abira. En d'autres termes, après que les mecs ils aient bossé dans les organisations de toute la coalition pendant 6 mois, il leur fait une after party pour ses mecs les plus proches dans son palais. Il leur a fait une semaine de vacances avant qu'on parte en guerre. Et là, alors là, ça c'est le michté où tout le monde est... hein?
Stone.
Voilà. Torchon, chiffon, carpette. Sauf que dans cette... Qu'est-ce que c'est là? Ah, ça. Bekitsour, et donc dans ce michté-là, il y a la fameuse histoire que bah, j'ai une femme, elle est géniale, super jolie, elle s'appelle Khashti. Khashti dans Google. Vashti. Ah, ok, vous savez, on connaît l'histoire, finalement, il l'a fait tuer. Et qu'est-ce qu'on a appris au Gan? Que le lendemain matin, il a cuvé son vin. Et qu'il a dit, il va se dire, j'en peux plus, il veut une autre femme. La fin du premier chapitre voit la mort de Vashti dans la Megillah. La fin du deuxième chapitre nous voit la présentation de Esther dans le harem. Et toi, tu te dis qu'il s'est passé, allez, une semaine au mieux. Sauf que dans le deuxième chapitre, on me dit « Bishnat Sheva le Malchuto ». Et le premier chapitre, c'était « Bishnat Shalosh le Molcho ».
C'est la durée de la guerre.
Qu'est-ce qui s'est passé en le premier chapitre et le deuxième chapitre? La guerre! Qu'il a perdu. Le combat de Salamine perdu par Aman, Memouranos, ça a été le combat décisif qui a fait perdre Xerxès. Finito la comédie, il a perdu! Dans le premier chapitre, on a l'impression d'avoir l'empereur du monde. Techelet Vachur, Karpaz, 127 provinces! Depuis le deuxième chapitre jusqu'à la fin de la Megillah, il ne sort pas de son palais. Et la seule chose qu'il organise, c'est le concours Miss Shushan. C'est tout. Il est où le grand? Il n'y a plus de grand Xerxès. Il est où l'Empire ottoman après la défaite de la Première Guerre mondiale? Il n'y a plus d'Empire ottoman. Il y a la Turquie. Et tu te tais. Ils sont où les grands empires du Japon après la défaite de la Seconde Guerre mondiale? Il n'y a plus. Tu te tais. T'es le petit Japon, tu te tais. Après Hiroshima et Nagasaki, tu te tais. Achashverosh, à partir du deuxième chapitre de la Megillah, c'est une histoire qui n'a rien à voir avec le premier chapitre. C'est une histoire à l'interne. Et vous imaginez deux généraux, un qui était couronné de succès, un qui était couronné d'échec, qui rentrent en politique. Toute ressemblance avec des cas actuels, évidemment, serait purement fortuit involontaire, bien sûr. Et alors ma Corée, qu'est-ce qui se passe après ça? Samy, en moins 479, Seishnat Sheva le Malchuto. Ça y est. Et là, on fait quoi? Eh bien, Esther, elle va arriver sur le devant de la scène. Mordechai prend un autre tafkid. Et c'est là que maintenant, l'histoire juive, elle commence. Et l'histoire juive de Pourim, elle commence à ce moment-là. Avec un peuple juif complètement acquis à la cause perse. Quand tu as fait partie des armées perses pour la grande épopée, que tu as versé ton sang, que dans chaque communauté, on a envoyé les enfants pour la gloire de l'Empire. Tu es perse. Vous rappelez que notre Kish, il a été exilé de Jérusalem. Son fils, Shimi, il est né à Babylone. Son fils, Yaïr, est né à Shushan. Et par un hasard qui n'en est pas un, il a décidé d'appeler son fils Dustin Hoffman, Kirk Douglas, Harrison Ford, Woody Allen, j'en passe et des meilleurs. Quoi? Jean-Jacques Goldman, Cyril Hanouna, on s'en fout, on ne va pas le faire tous. Gérard Darmon. On ne va pas tous les faire, j'en ai déjà parlé. On ne va pas tous les faire. Mais des amis, Woody Allen, né, vous savez quand quelqu'un se marie, une jeune femme se marie qui prend le nom de son mari, on dit, elle s'appelle toi une née. Bon, mais là, Woody Allen, il est juste Woody Allen, né Königsberg. Ah, c'est autre chose. C'est une autre connotation. Donc, Yaïr, il a décidé d'appeler son fils Mordechai. Mordor. En français, Jésus. Ben oui, Mordor, c'est le dieu principal de la mythologie babylonienne et perse. Donc, c'est comme si aujourd'hui, on donnait le nom d'une divinité idolâtre de notre époque. Bouddha. Et puis, il y a une fille dans la famille. On lui a donné un nom juif, Adassa. Mais tout le monde l'appelle Esther. Istar, Astarté. La déesse de l'amour, de la sexualité et des étoiles. Ah bah tiens, en anglais, ça va devenir le mot star. C'est pas une blague. Ça vient de Esther, de Istar. C'est des noms de divinités idolâtres perses et babyloniennes. Ça laisse rêveur quant à l'éducation bnébrakienne que Mordechai et Esther ont reçue. Ah bah si, moi, dans le livre d'un colorier pour ma fille, Mordechai il a un Schreimel. Donc déjà c'est sûr, tu vois, il n'y a pas débat. Hein?
T'as quand même dit qu'il était
rêve. Nahon. Bah d'après le Talmud.
D'après le Talmud, des membres du
après, quand il revient en Israël. Mais Nahon. Nous, il ne peut pas faire tchouva.
Il a peut-être quand même reçu.
On ne peut pas faire tchouva.
Si.
Rabbi Akiva, il n'est pas devenu le plus grand des rabbins, alors que jusqu'à 40 ans, il n'était pas du tout dans l'histoire.
Ah, bien sûr, mais on peut aussi penser qu'il a peut-être quand même reçu une éducation, parce qu'il y avait des gens, ils donnaient un nom.
Il a fait.
Mais à la maison, ils avaient une éducation.
Nahon, tu as raison. L'assimilation, ça ne se fait pas en une fois. Nahon. Parce que moi, j'aimerais me concentrer maintenant sur, ok, bah, très bien, toute l'histoire de la Megillah, je ne vais pas te la faire, tu la connais. Et la fille, et machin, lui veut tuer, il veut machin. On la connaît, cette histoire-là. L'histoire d'avant, tu ne la connaissais pas. Et l'histoire d'après, parce qu'elle aussi, elle m'intéresse. Ok, on a gagné. Besséder, ils ont pendu Aman. Wouhou, c'est nous les meilleurs. Sauf qu'il se passe quoi après ?
Rien.
Eh ben après, il se passe rien. Esther, elle reste mariée avec Achashverosh. C'est fini. Kaasher avadeti, avadeti. Zéou. Elle est perdue pour le peuple juif. Alors, ils ont un fils qui s'appelle Dariavesh Hacheni. Ah, Dariavesh Hacheni. Et ce Dariavesh Hacheni, d'ailleurs, tu peux voir qu'il a un nez juif. Tu le vois ? Hein, tu le vois. Il n'y a pas de, débat. Donc, Dariavesh Hacheni, eh bien, c'est lui qui va nommer un certain Nehemia comme pacha de Jérusalem, de la Judée. Mazé Pecha, c'est le pacha, le gouverneur. C'est lui alors il n'a pas autant de pouvoir que les satrapes, mais quand même. Et il devient le nouveau gouverneur de Judée. Il a fait. Alors qu'est-ce qu'il en est à la mort de Dariavesh Hacheni ben Esther en -404? Où sont les Juifs? Je repose ma question, où sont les Juifs? Rabotai, Ezra et Nehemia sont venus avec 42 000 personnes. C'est pas mal, beaucoup mieux qu'à l'époque de Zerubbabel, mais c'est cloum. Où sont les Juifs? Rabotai, que les choses soient bien claires. Tous les Juifs qui sont restés en Perse se sont assimilés. Tous. Quand je te dis tous, tu vas me trouver un ou deux. Tous. Le peuple juif qui s'est reconstruit, il s'est reconstruit grâce aux 42 000 qui sont rentrés en Israël. Les grands yeshivotes de Babylone, c'est plus tard.
Oui, c'est après le deuxième temps.
Ok.
Alors quoi, d'où viennent ces yeshivotes de Babylone?
C'est non, il y a fois des exils. D'abord, Babylone va rester une communauté extrêmement attirante, extrêmement importante. Donc il y aura toujours des contacts.
Des va-et-vient, oui.
Et donc à un moment donné, on va s'installer là-bas. Quand on va partir en exil, on va s'installer là-bas. Il y avait des vestiges de communauté juive. Yalla, on y va. Maintenant les amis, de quoi on est en train de parler ? De quoi on est en train de parler ? La mort de Dariavesh Hacheni, ça se passe presque 120 ans après la destruction du Beth Amikdash. La fin de l'histoire de Purim, 120 ans après la destruction du Beth Amikdash. Rabotai, c'était il y a 120 ans, le début du sionisme politique. Là, pour nous. Ils sont où les Juifs ? Où ils vont les Juifs il y a 120 ans ? Ils ne viennent pas ici. Où ils vont les Juifs à la fin du 19e siècle ? Il y a 1% du peuple juif qui décide d'opter pour l'option Israël. Où ils vont la majorité des autres au début du 20e ? Alors personne n'appelle ça les États-Unis. Pas du tout. Ils vont tous à Golden Medine. À Golden Medine. Littéralement, l'état de l'or, El Dorado. Oui, ça c'était pour Galout Sfarad, mais maintenant. À Golden Medine! Vadaï! Et je change mon nom de Königsberg en Allen! Et Kirk Douglas et tous ces gens-là! Je vous invite à regarder la chanson sur YouTube, elle est vieille, elle a 20 ans. La chanson d'un acteur américain très connu, Adam Sandler, un juif. Et il fait une chanson pour Hanouka, ça s'appelle The Hanouka Song. Si vous regardez sur YouTube. Ou c'est en anglais, où il dit, voilà, comme moi, comme beaucoup d'autres juifs, pendant la période de Noël, je me sentais tout seul. Alors, pour aider à supporter cette période, et peut-être il y a des petits juifs qui me regardent, qui se sentent tout seuls, eh bien, je vais faire une chanson où je vais divulguer tous les noms de mes amis dans le showbiz qui sont juifs, comme vous et comme moi. Et il passe toute la liste. Les amis, mais il n'y en a pas un qui a un nom juif.
Ben non.
On part pour la Golden Medina.
On se met à carreau.
La première chose à faire, c'est de changer son nom. Mais Rabotai, il y a le dernier Lucky Luke.
Ouais.
En terre promise.
Ah ouais.
Ouais. C'est quoi en terre promise? Je me suis dit, Lucky Luke en Israël, pourquoi pas? Ben non. C'est juste qu'il y a une famille juive de Pologne qui arrive à Golden Medina.
Il y a aussi la BD, le Rabbi Harvey.
Oui, il y a d'autres choses.
C'est autre, aussi, je pas. Mais là, dans ce truc-là, il rencontre, en fait, c'est quoi le pitch de l'histoire? Il y a cette famille juive qui arrive de Pologne et qui a donné un télégramme à son cousin, son neveu, je ne sais plus quoi, qui doit venir les chercher. Et en fait, ce neveu-là, il demande à Lucky Luke de les accompagner parce que lui, il peut pas, machin. Et en fait, Lucky Luke, il le connaît, c'est un pote à lui, un cowboy, c'est lui. Et il s'appelle Jack Lapoisse. Il dit, mais Jack Lapoisse, qu'est-ce que tu as un rapport avec une famille juive de Pologne? Il dit, non, qu'est-ce que je te dis? Je m'appelle Yankel Stern.
Yankel.
Jack Lapoisse.
C'est un ami.
Boysai, c'est de ça qu'on parle. C'est de cela qu'on parle. Quel est le Perek Yud Aleph de la Megillah? Vous avez compris que la Megillah, c'est une vraie histoire. Il y a en sous-texte de la Megillah tellement d'événements historiques incroyables qui se sont passés pour y arriver. Et après, c'est quoi le chapitre 11 de la Megillah qui n'est pas marqué? Ça s'arrête au chapitre 10.
Quand tout le monde va venir.
Ben, c'est quoi le chapitre 11? Ben, tu as deux options. Tu as l'option de ceux qui sont restés à Golden Medina, en Perse, et qui ont disparu. Et tu as l'option de Ezra et Nehemia, qui écrivent le nouveau chapitre en Eretz Yisrael. Maase Avot, Siman Labanim, Nevoa.
Il y a eu d'autres Eliot après.
Après quoi?
Il y en avait eu des autres qui sont venus.
Si, au compte-goutte, bien sûr. Une fois que les Hashmonaïm, par exemple, quand les Hashmonaïm ils vont reprendre la puissance, alors il y a des gens qui vont venir en Israël. Mais il faut savoir qu'avant le Mered Hashmonaïm, la plus grande communauté juive, c'est Alexandrie. Et la deuxième plus grande communauté juive, c'est Babylone. C'est qu'après les victoires du Beit Sheni qu'on va commencer à venir beaucoup, 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 et Jérusalem va devenir un centre très important. Les amis, on vit exactement les mêmes instants.
C'est incroyable.
Pas choute, les mêmes instants. Alors, on a toujours l'habitude de dire, de parler de Pourim par rapport à la persécution de Haman. Ouais, c'est ce qui a permis à certains juifs de se rappeler qui ils étaient, puisqu'ils étaient tellement assimilés. Et tout d'un coup, il y a quelqu'un qui leur a dit, mais moi, je m'en fous que tu aies changé de nom. Tu restes juif. Et tu veux que je te dise, même si ton grand-père, il s'est marié avec une Goya, et que toi, alachiquement parlant, t'es goy, et que tu vas à l'église dans le ghetto de Varsovie, tu iras quand même dans le ghetto de Varsovie. Parce que pour moi, juif, ça ne s'enlève pas. Je me rappelle que j'ai parlé de ça déjà l'année dernière. Et l'année dernière, on était au début de la guerre en Ukraine. C'était juste au moment comme ça de pourri, machin. Et il y a eu les images où on a sorti les sifrei Torah de la grande synagogue de Kiev et tout le monde s'est ému sur les réseaux. Mais non, Ribono shel Olam, mais qu'est-ce que tu fais à Kiev? Mais qu'est-ce que tu fais à Kiev 120 ans après le début du sionisme? Qu'est-ce que tu fais à Kiev? Et après tu viens pleurner parce qu'il y a un problème là-bas et qu'il faut sortir les sifrei Torah et ça fait des... C'est pas bien, c'est malheureux qu'on doive détruire une synagogue. Mais qu'est-ce que tu fais à Kiev? À Golden Medina?
Okay, oui. Mais c'est ça.
Voilà l'histoire de Pourim, les amis. La suite de Pourim, c'est la question de où est-ce que je continue l'histoire? Parce que c'est ça la question. La question, elle n'est pas Torah.
Mais ils se sont tous assimilés.
Comment c'est possible? Tu veux regarder un petit peu ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis, en France? Quoi? Il est où le peuple juif aujourd'hui? Où ils sont?
T'as quand même des grandes
Oui, des grandes communautés. Oui, qui représentent, tu sais, la partie immergée de l'iceberg.
50% du peuple juif.
Pardon?
Il n'y a pas 50% du peuple juif.
Alors viens, on va prendre la France uniquement parce que c'est ce qu'on connaît le mieux. Et qu'en fait, les chiffres aux États-Unis sont bien pires. En France, on estime 450 000 juifs.
Oui.
Parmi ces 450 000 juifs, on estime qu'à peu près 100 à 150 000 font partie du cercle 1. C'est-à-dire du mec avec les péotes jusqu'au mec qui vient à Kippour à la synagogue une fois par an. Ça, c'est le cercle 1. Je te raconte pas ceux qui sont inscrits à l'école juive. Le cercle 2, c'est du mec qui vient une seule fois dans l'année au mec qui vient pas mais qui a une concession pour être enterré dans un cimetière juif. Tu peux rajouter 100 000. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est pas la moitié qui sont assimilés.
Non, il y en a 250.
C'est t'en as 50, t'en as 250 000 qui savent même pas qu'ils sont juifs. T'en as encore dedans 100 000 qui se veulent juste se faire enterrer comme un juif. Tu me diras, c'est mieux que rien. Et dans les 150 000 proches, t'en as près de la moitié qui sont pas proches. De quoi on parle ? Aux États-Unis, c'est bien pire. Aide-moi la saute. Tu ne peux pas garder ton identité sur le long terme, là où on te demande de t'appeler Eric. Ben oui, il y a un juif aujourd'hui qui prône qu'il faut s'appeler Eric. Ah, qu'est-ce que je te dis ?
Je pense qu'à l'époque, c'est-à-dire un peu avant Purim, les communautés juives qui étaient en Perse, elles étaient religieuses comme aujourd'hui on imaginerait certaines communautés en France qui sont.
Non, absolument pas.
Et pas religieuses.
Absolument pas.
Donc ça, peut-être que ça se compare.
Mais elles avaient tout lâché.
Ok, donc ça se compare pas alors.
Mais elles avaient tout lâché. Bien sûr que ça se compare pas. Tu sais pourquoi ça se compare pas ? C'est pire aujourd'hui. Tu sais pourquoi ? Le temps. Elles avaient tout lâché en Perse. Mais elles étaient depuis combien de temps en exil ? 70 ans. Alors, 70 ans, parce qu'ils ont tout lâché, ça a créé déjà un grand problème. Ouais. Mais là, ça fait 2000 ans.
Et celui-là, aujourd'hui, avec 2000 ans, il reste quand même des communautés très religieuses.
Oui, il reste des communautés très religieuses. C'est la partie, je répète, émergée de l'iceberg. La partie immergée de l'iceberg, qui est l'essentiel du peuple juif, il est assimilé. Le combat de notre génération, c'est contre l'assimilation, c'est pas contre la Brit Mila.
Mais ces communautés religieuses, elles se sentent à l'abri. Parce
bien sûr.
C'est vrai que les gens qui sont pas religieux, Nahon. Ils sont
ah,
civils,
ouais.
Mais...
Nahon, t'as raison. Kish, Shimi, Yair, Mordechai. C'est-à-dire, Ad Nahon, là, la communauté, elle est encore relige. Kol HaKavod. Dans une, deux, trois, quatre générations. Yesh Be'ivrit, on dit Yesh Mishpachat HaShomrim. Le Rav Cherki disait tout le temps. Yesh Mishpachat HaShomrim. Yesh Bador HaRishon, Yesh Shomer Torah Omitzvot. Bador HaSheni, הוא הופך להיות Shomer Masoret. Bador HaShlishi, Shomer HaTzair. ובדור הרביעי, Shomer Mishkal. Mais en vrai, on est là, quoi. Alors oui, il y a des communautés encore très orthodoxes et très...
Mais en fait, il y a aussi, moi je vois un peu l'inverse, parfois, c'est qu'il y a beaucoup de parents qui sont complètement assimilés, et la jeune génération, celle qui vient après, ils cherchent à retrouver le judaïsme.
Amen. Et grâce à ça, on peut aussi leur redonner le chemin de la terre d'Israël.
C'est vrai.
Parce qu'ils veulent, ils sont en recherche... De émettre, en recherche de sens.
Oui.
Recherche de sens.
Oui.
Donc tu veux lui donner un sens. Ça a l'air. Alors, il y a Shabbos. Ah, très bien. Pourquoi c'est important Shabbat ? C'est marqué dans la Torah. Ah, Femod. Ah, mais marqué aussi Eretz Yisrael. Ah, ok.
Mais c'est vrai qu'on en voit quand même. Enfin, moi, je sais qu'à Paris, j'en vois quand même beaucoup qui reviennent par.
On est dans la génération de la Géoula. C'est normal.
Voilà. Ouais.
C'est normal, bien sûr, heureusement. Mais le but du jeu, c'est qu'ils reviennent aussi, qu'ils reviennent. C'est un tout. Et donc, on en est là. La question de la suite de Purim, c'est où tu continues l'histoire de Purim.
C'est vrai.
Et Nahon, qu'il y a des communautés qui se sentent à l'abri, elles sont à l'abri de manière ultra, ultra, ultra temporaire. Agave, soit parce qu'il y aura cette assimilation, soit parce qu'il y aura Xerat Tabaato Shalaman. Je sais pas, mes chéris. On n'en veut pas. Bien sûr qu'on n'en veut pas. Mais c'est déjà arrivé plusieurs fois dans l'histoire, ça peut réarriver. Hein.
En fait, dans l'histoire de Haman et Mordechai, selon ce que tu as expliqué, c'est complètement autre chose. C'est-à-dire qu'il y avait une rivalité de...
Ah, c'est exactement ce que dit le Midrash, hein, d'ailleurs. Dans le Midrash, dans le Talmud de Yerushalmi, qu'ils se détestent depuis... Oula !
C'est ça qu'ils ne voulaient pas...
Bien sûr.
Mais Mordechai et Mado, tout ça.
D'accord.
Et je prononce, pour juste un petit détail de l'histoire, c'est que Rajverosh, il est...
Plus écouter Haman, le perdant, que Mordechai, le vainqueur.
Mais oui, mais c'est ce qui s'est passé. Il s'est entouré de meilleurs conseillers politiques, c'est tout. C'est tout.
Bon, mais Achashverosh, alors finalement, c'était quoi son truc? Parce que Achashverosh, il y a toujours cette histoire de est-ce que c'est une marionnette ou est-ce qu'il était antisémite, est-ce que, etc.
Mais Achashverosh, c'est un rachat. C'est un pourri, autant qu'Aman. Aman, il vient le voir, il lui dit « Écoute, j'ai un plan pour tuer tous les Juifs, t'inquiète, ça coûtera tant ou tant, mais j'ai trouvé moyen de... » Il dit « Non, c'est bon, gratos, vas-y, fais-toi plaisir. » Il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre, hein. Ils sont pourris les deux. Que les choses soient bien claires. C'est pas devenu un tzadik, hein, Rajverosh. C'est juste que c'est devenu quelqu'un qui a beaucoup moins l'aura et l'influence qu'il avait avant la guerre. C'est-à-dire donc, Mimahem, Basmanazé, Bezrat Hashem, nous vivons la génération qui est en train d'écrire le chapitre 11, 12, 13, 14 de la Megillat Esther pour Beret Israël. Et on va reconstruire le Beit HaMikdash, Veyeh Tov. Amen, Amen.